Bienvenue, c'est l'école des disciples. Nous parlons sur le leader, le leadership, le leader. Et rappelez-vous que nous avons dit dans d'autres fois que la croissance d'une église est liée à la qualité de ses leaders. Un leader, c'est celui qui guide, c'est celui qui dirige. C'est celui qui a reçu la responsabilité d'encadrer les autres. Alléluia. Et pour cela, il doit avoir un certain caractère. Il doit avoir un certain caractère. Alléluia. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Sinon, ce sera difficile pour lui de s'en sortir. Alléluia. Et donc, depuis la dernière fois, nous avons parlé des qualités, les qualités essentielles du leader. Nous avons vu la discipline personnelle, nous avons parlé de la sagesse, nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de la décision, nous avons parlé du courage, alléluia. Il doit être courageux. Nous avons parlé de l'humour, alléluia. Oui, il doit être quelqu'un d'aimable, d'ouvert, alléluia. Nous avons parlé d'humilité. Nous avons dit qu'un leader n'est pas quelqu'un qui fait publicité pour lui-même, mais un qui met plutôt ses faces devant les autres. Alléluia. Et donc, nous avons parlé de la sincérité et de l'intégrité. Et nous avons parlé, je crois, la dernière fois, de la colère, n'est-ce pas? La colère, la sainte colère. Pas la colère dans le sens de la destruction, mais la colère dans le sens du zèle. Le zèle du Seigneur. Alléluia. Cette qualité de Dieu pour corriger les hommes. Alléluia. Cette qualité qui amène le peuple de Dieu à aimer les choses de Dieu plus que les choses du monde. Alléluia. Ensuite, nous avons parlé de quoi encore? Je crois qu'on s'est arrêté sur la colère, c'est ça? Alors ce soir, nous allons continuer avec une autre qualité essentielle parce qu'il y en a beaucoup. Et la prochaine qualité que nous allons parler ce soir, c'est la patience. La patience. Oui, mes bien-aimés. La patience. La patience. Un leader qui n'est pas patient va détruire. Alléluia. Un leader qui n'est pas patient va détruire. La Bible nous enseigne que la patience est l'aptitude à ne pas s'énerver quand surviennent les difficultés, à supporter les défaillances, à supporter les erreurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de leaders, beaucoup de responsables d'église être d'une impatience destructrice. Alléluia. D'une impatience. Amen. D'une impatience intolérante. Alléluia. C'est la patience, c'est l'aptitude, la capacité à ne pas s'énerver. À ne pas s'énerver, je voudrais que tu soulignes ça dans ton cahier, à ne pas s'énerver quand surviennent des difficultés. Quand surviennent des difficultés. À ne pas s'énerver, c'est très important. C'est ça la patience. À ne pas s'énerver quand surviennent les difficultés, à supporter les défaillances, à supporter les erreurs. Alléluia. C'est ça la patience. Le dictionnaire nous enseigne également que la patience, c'est une vertu. C'est une vertu qui permet de supporter les adversités. Vous voyez? Qui permet de supporter les adversités. Les douleurs, les injures, les incommodités. Bref, tout ce qui pousse l'être humain à abandonner ou à se révolter. Mes bien-aimés. C'est pourquoi tous ceux qui font preuve d'une patience face à toute épreuve deviennent des modèles de constance. Deviennent des modèles de constance. Constance. Vous voyez? Beaucoup de gens ne sont pas patients. Alors, quand tu manques de patience, tu manques de constance. De constance. La constance, c'est lié à la régularité. Tu n'as plus régularité dans ton attitude, dans ton comportement.
Les personnes impatientes détruisent et regrettent après.
Alléluia.
Oui. On te dit fais ça. Non. Tu casses tout. Et après tu dis ouais, qu'est-ce que j'ai fait?
Alléluia.
La patience te permet d'anticiper par rapport aux erreurs.
Tu gagneras le meilleur dans la vie de ceux que tu diriges.
Alléluia. Oui. Oui. La Bible nous enseigne que Moïse, Nombre chapitre 12, le verset 3, la Bible dit, l'Éternel entendit, oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Regardez le leadership de Moïse. Si Moïse était d'une impatience comme beaucoup d'entre nous, tous les 3 millions d'hommes qu'il avait suivis dans le désert seraient morts.
Alléluia.
Mais la Bible dit que il était l'homme le plus patient de la terre.
Oh mon Dieu, puisses-tu être le plus patient dans ta famille. Puisses-tu être le plus patient dans ta famille. Puisses-tu être le plus patient dans ton lieu de travail. Puisses-tu être le plus patient ou la plus patiente dans ton lieu de travail. Puisses-tu être le plus ou la plus patiente dans ton département au nom de Jésus.
Vous voyez? Moïse. Si nous regardons le leadership de Moïse, nous verrons que c'est à cause de la patience de Moïse qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Imaginez-vous, Moïse est le petit frère. Il a un grand frère qui s'appelle Aaron, une grande sœur qui s'appelle Myriam. Et tous les trois prophétisent. Rappelez-vous que Aaron était le prophète de Moïse. Vous vous rappelez? Dieu a fait d'Aaron le prophète de Moïse. Ça veut dire que la grâce prophétique était sur sa vie. Myriam prophétisait par les chants. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, Myriam compose des cantiques prophétiques. Et la Bible dit que chaque jour, Myriam et Aaron mal parlaient de Moïse. Ah, tu penses que quoi? Tu penses que tu es plus grand que nous? Nous, on est même tes aînés. Laisse-nous ça. Et la Bible dit que Moïse écoutait, il ne disait rien. Il écoutait, il ne disait rien. Bien-aimé, le test de la patience d'un homme, c'est quand il peut supporter l'offense dans la difficulté, dans la pression.
Oh, c'est dur, maman. C'est dur. Ah oui. Il y a ton ancien toi qui dit, je vais te montrer qui je suis.
Alléluia. Il y a ton ancien toi qui dit que tu as réveillé. Je vais te répondre maintenant. Alléluia. Depuis je m'étais, tu penses que je n'ai rien à dire. Tu penses que vraiment aujourd'hui, j'avais dit que moi, je ne devais plus bagarrer. Aujourd'hui, on va bagarrer.
Alléluia.
Alléluia. Malgré toutes tes bonnes intentions. La patience. Dis à quelqu'un la patience. La patience. Tu veux aller loin? Tu vas avoir la capacité d'encadrer les autres, tu dois être patient. Écoutez, regardez vos parents. Si vos parents étaient d'une impatience, vous croyez que vous serez devenu celui que vous êtes devenu aujourd'hui? Non. Il y a des parents, parfois tu fais des choses, ils te regardent et disent, mais si elle pouvait te zigouiller. Parce que tu l'énerves. Mais il est patient. Il avale. Il dit, ah, c'est mon enfant, je vais faire comment? Je ne peux pas jeter mon enfant. Je vais juste essayer de continuer à parler jusqu'à ce que la chose va rentrer. Et regardez, Moïse, ce verset biblique que je viens de lire de Nombre 12, 3, nous montre combien, nous parle de la patience de Moïse, un autre héros de la foi. Ici, la patience de Moïse ne nous est pas présentée comme une attitude à adopter, mais comme un caractère qu'il détenait. Comme un caractère. Comme un caractère. Non. C'était devenu son comportement de tous les jours. Vous voyez les gens, ils sont patients pour avoir un poste. Quand ils ont la responsabilité là, ils deviennent le patron. L'impatience devient leur quotidien. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici que Moïse était l'homme le plus patient. Si la Bible atteste de la patience de Moïse, c'est que Dieu l'avait testé à plusieurs fois. Et vous savez, les personnes qui vont le plus tester votre patience, c'est votre famille propre. Laisse-nous tes choses là, tu penses que quoi? Laisse-nous tes choses là. Quand tu arrives à la réunion, tu dis, on te donne la parole, bon, je vais parler maintenant, vous savez, la parole de Dieu. On tape, c'est quoi, tu es Joseph ou tu es Marie? Alléluia. Et c'est alors là que tu sens une colère au fond de toi monter. Tu sais que tu as la vraie parole. Tu sais que tu dois prêcher la parole de Dieu. Et un garçon là-bas en bas qui a grandi avec toi, il te dit, fiche-moi le camp. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes, tu avales. Tu dis, je t'attends dehors. On finit ici, dehors, on va continuer. C'est ça? C'est ça? Alléluia! Bien-aimé, peux-tu imaginer tout ce que cela prend pour qu'un homme soit réputé comme étant le plus patient de toute la terre? Alléluia! Moïse est décédé, il avait 150 ans. Imaginez combien d'années ça l'a pris pour être validé par le ciel comme patient. Toi, tu es patient pendant un temps. Alléluia. Tu es patient parce que tu veux un pantalon. Tu es patient parce que tu veux une jupe. Tu es patient parce que tu veux te marier. Tu es patient parce que tu veux voyager. Mais quand tu as ça, ton vrai caractère sort. Alléluia. Tu es patient. Ce genre de patience. Vous voyez, la patience qui devient caractère est approuvée par Dieu. Aussi, tout homme qui se montre patient de cette manière est agréable au Seigneur. Ce genre de patience est caractérisé par la capacité de garder le silence face à tous ceux qui parlent en mal contre nous. Alléluia. Gardez le silence. On parle en mal. Tu gardes le silence. Pas garder le silence qu'à l'intérieur, ça grommelle. Hein? À l'intérieur, c'est le fou. C'est mieux même que tu parles. Alléluia. Il y a des gens, c'est mieux qu'ils parlent qu'ils se taisent. Parce qu'ils peuvent mourir dans leur lit. Amen. On dit que non, quelqu'un l'a tué. C'est pas on l'a tué. Hein? C'est le cœur qui a lâché. Alléluia. Trop plein. Trop plein. Trop plein. Quand ils vont même devant Dieu. Il se met à genoux, il commence à prier. C'est que les plaintes. Parce que l'impatience engendre les plaintes. Et les murmures. Et les murmures. Es-tu patient? À quel niveau es-tu patient? À quel niveau es-tu patient? On a un visiteur dans l'église. Alléluia. Alors, ce genre de patience est donc caractérisé par la capacité de garder le silence face à tous ceux qui parlent en mal contre nous. Ainsi, face aux fausses accusations et aux rumeurs infondées, nous devions apprendre à garder le silence en laissant Dieu combattre à notre place. Oh, tu dis amen, hein? Quand une petite fausse accusation passe à côté de toi, tu dois répondre. Alléluia. Regardez notre Seigneur. N'avait-il pas le pouvoir de détruire ceux qui l'accusaient? Si. Mais il est resté patient. Il a gardé silence. 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 La raison pour laquelle Pilate a demandé à voir Jésus en privé, c'était parce qu'il espérait que Jésus allait négocier sa sortie. Alléluia. Il dit, bon, parce qu'on lui a dit qu'il est fils, il est prince, il est roi, roi des Juifs. Il dit, ça veut dire qu'il a l'air rond. Il dit, faites-le venir. Il dit, mais on dit. Jésus dit, c'est ce que tu dis. C'est toi qui le dis. Il dit, mince. J'ai dit qu'on veut te tuer. Toi, tu dis que quoi? Il dit, Il est écrit, le fils de l'homme va passer comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, mince. Le gars, s'il ne veut pas négocier. La négociation n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont profiter de votre impatience pour vous faire contracter des alliances qui sont incorrectes devant Dieu. Qui sont incorrectes et qui vont vous piéger demain parce que vous étiez impatient, impatient. Oui, oh, Dieu te dit, attends, tu pries pour le mariage, tu pries pour le mariage au lieu d'attendre. Tes copines viennent dire que non, tu sais, pour avoir un bon gars, il faut sortir. Il y a une piscine de l'autre côté là. Tu sais, là-bas, on va qu'en bikini. Il y a les gars bien là-bas. Tu pars, tu chopes un gars là-bas, premier tour seulement, tu as le sida. Donc pour toi, c'est compliqué. Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont la poisse sur la terre. Tu chopes une fois la grossesse et le sida en même temps. Jesus. Tu peux en vouloir à ta copine toute ta vie. Mais en réalité, le problème, c'est toi. Impatience. Impatience. Alléluia. Mes bien-aimés. Le fait que la patience de Moïse ait été mise en évidence dans ce verset de Nombre 12, le verset 3. Est aussi la preuve que la patience est un indicateur évident de la maturité spirituelle. Amen. Un indicateur. Oui. Tu ne peux pas être un homme mature si tu n'as pas maîtrisé ta patience. Oh non, moi j'ai 50 ans. 50 ans, tu es toujours en train de courir derrière n'importe quoi. Tu manques de patience dans la vie. Alléluia. Donc, c'est la preuve que la patience est un indicateur évident de la maturité spirituelle d'une part et la marque de fabrique de tout grand leader. Tout grand leader que vous pouvez citer dans le monde. Une de leurs particularités, c'est la patience. C'est la patience. La patience. La logique veut que l'acquisition de la patience passe généralement par l'expérience des circonstances difficiles. Tu ne peux pas avoir la patience si tu n'es pas passé par des moments difficiles. La passion, on ne l'apprend pas à l'école. Ce n'est pas une unité de violence. Alléluia. C'est une aptitude que nous acquérons pendant notre vie. Alléluia. On ne peut pas te donner la passion par imposition des mains. Même si on te plonge dans un fût d'huile d'onction, ça ne changera pas et ça ne te communiquera pas la patience. Jamais. Tu l'acquiers sur le chemin de ta marche et sur la manière que tu anticipes les difficultés de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque vous allez un peu même plus loin, un peu plus loin, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, vous voyez que la patience est un fruit de l'esprit. C'est pas ça? C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit. Et il semble donc être un trait de caractère essentiel pour tout disciple de Jésus. En d'autres termes, bien-aimé, tu ne peux pas être reconnu comme serviteur de Dieu, enfant de Dieu, si la patience n'est pas en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Voyez? La patience n'est pas seulement nécessaire pour les leaders spirituels, elle est aussi utile pour éviter l'épuisement. L'épuisement. Voyez le ministère dans lequel nous sommes. Ou bien tout service dans lequel nous nous retrouvons. C'est une affaire de personnes. C'est une affaire de personnes. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous ne pouvons pas le faire seul. On a besoin des autres. Tout projet que tu as dans la vie, tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Tu as besoin de fonctionner avec quelqu'un. Et cependant, de nombreuses personnes pensent que s'ils ont gagné les bonnes activités, ils ont accompli leur projet. Non. Vos programmes peuvent être bons, mais ils ne sont qu'un moyen d'arriver à une fin. L'objectif final est toujours que les gens soient sauvés par Jésus et qu'ils se conforment à son image. Alléluia. Et donc, lorsque vous avez un projet, il faut que vous soyez avec les gens. Et quand vous êtes avec les gens, forcément votre impatience va être relevée. Alléluia. Forcément. Forcément votre impatience va être taquinée. va être taquiné. Oh, moi, j'aime pas travailler avec elle. Moi, j'aime pas être avec elle. Tu vas être avec qui? Crée ton monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Crée ton monde. Là, tu seras bien. Et même dans ton monde, quelqu'un que tu n'aimes pas va apparaître. Alléluia. Oh, moi, j'aime pas celui-ci. Moi, j'aime pas. Il y a les gens que mon cœur ne colle pas. Ton cœur colle, c'est la super glue. Ça ne peut pas. Il faut avoir des connexions et des interconnexions avec les hommes. C'est comme ça que nous devenons le plan que Dieu veut que nous soyons. Amen. Regardez deux couteaux. Quand maman à la maison prend un couteau, elle coupe la viande, ça ne coupe pas, elle prend un deuxième couteau, elle essaie d'aiguiser. Le couteau, les deux couteaux ne sont pas aiguisés. Mais en se frottant les deux couteaux s'aiguisent au même moment. Tu mets « je t'aide ». Tu m'aides, je t'aide. Et c'est ça dans la vie. Tu as besoin de cette femme, Mama Dani, pour t'aiguiser. Elle a besoin de toi pour s'aiguiser. Et vous devez savoir que les personnes que vos cœurs ne s'attachent pas, et c'est même ceux que vous devez vous attacher. Parce qu'ils ont ce que vous n'avez pas. Et ils peuvent faire ce que vous ne pouvez pas faire dans votre vie vous-même. Alléluia. Un jour, j'écoutais un homme de Dieu en Angleterre, j'écoutais la prédication. Il parlait du feu prophétique Joshua dans une de ses prédications. Il disait, vous savez comment je suis devenu l'ami de cet homme? Vous savez comment je suis rentré en contact avec cet homme? On dit non. Il dit, je vais vous expliquer. Il dit, je suis allé à l'époque sur Google, j'ai tapé les pasteurs les plus détestés de la terre. Et le numéro un, c'était T.B. Joshua. Il a dit, voilà l'homme que je cherche. Écoutez, mes bien-aimés, je vais vous donner ça comme une référence pour vous. Tout ce que les hommes aiment, Dieu déteste. Ah, tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi Dieu aime ce que les hommes rejettent. Hello. Dieu aime ce que les hommes rejettent. Dieu aime ce que les hommes détestent. Dieu aime ce que les hommes piétinent. Alors, chaque fois que les hommes célèbrent quelque part, faites attention. Il y a beaucoup de chances que Dieu ne soit pas dans le camp là. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? La parole de Dieu dit que il est près de ceux dont le cœur est contrit et brisé. Contrit et brisé. Alors si ton cœur n'est pas brisé, alléluia. Ceci est une parole d'encouragement pour toi qui passe par des moments de tristesse. Jésus est à côté de toi. Le problème avec nous, c'est qu'on est trop habitué à ce que les hommes nous touchent, qu'on croit que Dieu est un homme qui doit aussi nous toucher. Je ne sens plus Dieu, ce n'est pas une odeur. Alléluia. C'est une conviction, sa parole dit qu'il est là, il sera là. Amen, tu y crois, c'est tout. Je ne sens plus Dieu, ça fait un moment, je ne sens plus comment. Ce n'est pas une odeur. Alléluia. Ce n'est pas une odeur. C'est une conviction. Alors, vous voyez, Exode chapitre 34, nous apprenons ici que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Pensez à l'histoire de votre propre vie et à la distance qui vous sépare entre encore de l'homme de Dieu. À la distance qui vous sépare encore de l'homme que Dieu veut que vous soyez. Souvenez-vous de la profondeur de l'amour de Dieu pour vous et de la patience dont il a fait preuve à votre égard, à notre égard. Alléluia. Alors que nous étions encore dans le péché, Jésus nous a aimés. Quelle patience. Quelqu'un a dit, amen, c'est Dieu. Mais je peux vous rassurer que Jésus, c'est du sang qui a vraiment coulé à la croix. Hein? Amen.
Dieu ne meurt pas, Jésus est mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Bientôt, nous allons célébrer la Pâque. La Pâque symbolise quoi? Hein? Je n'ai pas suivi les amis. Hein? Aidez-moi, je ne sais pas moi-même. La Pâque symbolise quoi? Ok. C'est notre alliance avec lui. Bon, c'est politiquement bien dit. La Pâque commémore quoi? La mort de Jésus et la résurrection. Alléluia. Et vous devez savoir que la Pâque a eu lieu lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Amen. Et il passe par les eaux de la mer Rouge. Il se retrouve de l'autre côté. Pâque, ça veut dire rouler. Rouler. Alléluia. Le péché est roulé. Amen. Et donc Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Nous ne fêtons pas la Pâque. Nous vivons la Pâque. Ça fait partie des cinq fêtes de l'Éternel. Amen. Il y en a cinq. Cinq fêtes. Et parmi les cinq fêtes de l'Éternel, nous avons la Pâque, nous avons la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et après la Pâque, il faut compter 50 jours pour la Pentecôte. Amen. Donc, la Pentecôte se situe 50 jours après la Pâque. Amen. Et si on est ensemble, dis à quelqu'un, sois patient. Dis à quelqu'un, sois patient. Arrête d'être impatient. Arrête d'être impatient. Papa, tu ne peux pas comprendre. J'ai trop mal. Papa, tu ne peux pas comprendre. La fée-là me touche. La fée-là, pardon. Vraiment, je veux vite sortir d'ici. Vraiment, que ma situation se règle. Même quand tu pries, il y a l'impatience dedans. Oh Dieu, réponds-moi maintenant, maintenant, maintenant. Mais, sois patient. Sois patient. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Et le Seigneur n'est jamais en retard. Alléluia. Voyez, bien-aimés, le caractère, la patience. Le changement prend du temps. Toujours du temps. La science nous apprend, par exemple, que il faut entre 18 et 254 jours pour qu'une personne prenne une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude. La science, c'est la science qui nous dit ça. Il faut entre 18 et 254 jours pour que un truc que tu as vu dans la vie de l'autre devienne ta part. C'est pourquoi vous allez voir un enfant qui était poli à la maison et quand il joint une personne dehors qui était impolie, il lui faut juste 2 semaines, maximum 3 semaines, pour que le caractère là devienne son caractère. Donc, pour pouvoir empêcher que ce caractère là devienne son caractère, il faut que tu sois assez vigilant pour attaquer la chose dès que l'affaire là commence. Sinon, après entre 18 et 254 jours, c'est-à-dire pratiquement 6 mois, cette personne, cet enfant, s'il ment, il ne pourra plus s'arrêter au mensonge si Jésus ne descend pas dans sa vie. Parce que ça devient son caractère. Ça, c'est la science. La science dit, après ça, c'est fini. Mais la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous vous connectez avec quelqu'un une fois par semaine, ou même une fois par mois, pensez à la patience qu'il vous faudra pour créer, ne serait-ce qu'un seul nouveau changement dans la vie de cette personne. Pensez maintenant aux dizaines ou aux centaines de façons dont nous avons tous besoin d'être changés pour ressembler davantage à Jésus. Alléluia. Alors, si chaque jour tu lis la parole de Dieu, chaque jour, ne serait-ce que deux chapitres, ou ne serait-ce que deux ou trois chapitres par jour, à la fin de l'année, ces versets vont se retrouver dans ton caractère. Si on veut appliquer ce que la science dit, amen. Ça, c'est la science. Mais la science, si je prends la parole de Dieu, amen, je l'applique dans ma vie. Je lis, même pas sans comprendre, même sans comprendre, même sans conviction. C'est-à-dire, lis comme un roman. Tu lis ça comme un roman. Après 6 mois, ton caractère n'acceptera plus ce qui est faux. Ton caractère, chaque fois que tu vas te retrouver à côté des gens qui parlent des femmes, qui parlent des hommes, qui parlent de la bière, tu vas dire, excusez-moi, j'arrive. Parce que ça va ressortir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi la parole de Dieu dit que quand l'enfant est petit, éduque-le dans les Écritures. Comme ça, quand il va grandir, il ne s'en séparera plus. Parce que la parole va prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. Alors, la patience n'abandonne pas les responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que des choses se réalisent dans leur vie. Et beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils cherchent un Dieu micro-ondes. Alléluia. Ouais, Dieu micro-ondes. C'est-à-dire quand tu mets ton repas dans le micro-ondes, tu mets 4 minutes. Amen. 4 minutes. Donc dans 4 minutes, ton repas va être chaud. Amen. Du coup, tu as mis ton chrono. Tu as 4 minutes pour aller chercher ton jus, mettre sur la table. 4 minutes pour te doucher rapidement. Et après, ça fait bing. C'est bon. Tu sors. Tu t'assois. Tu manges. On veut le Dieu qui nous donne. Tu seras béni demain. Quelle heure, Seigneur? 10 heures. Oh, formidable. Il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Dieu n'est pas un météorologue. Alléluia. La patience. Jacques 5, le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert comment? Patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Oh, quand il dit à Job, quelqu'un dit, oh, pardon, ne nous parle pas de Job. Vraiment, Job, c'est, frère Job, c'était sa souffrance, ce n'est pas la mienne. Non, Job est un enseignement pour nous. Amen. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, le verset 11. Alors, si tu es patient, quel que soit le temps que Dieu éprouve ta patience, à la fin, il y a toujours une récompense. Et c'est ça qui est important. Il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Ecclésias chapitre 7, le verset 8. Ecclésias 7, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé, bien commencer ne veut pas dire bien finir. Bien commencer ne garantit pas de bien finir. Beaucoup ont bien commencé ici, aujourd'hui. Nous tous, on a fait l'école, on a fréquenté avec des gars hyper intelligents. Aujourd'hui, ils font le bain skin. Alléluia. J'avais une de mes camarades brillante, brillante sur toutes les matières. 16, 17, en seconde, en première, en terminale, ouf. En seconde, elle parlait l'allemand, frère, elle parlait l'anglais. Quand nous on pataugeait dans 8 en anglais, elle est pataugée dans 16. Et le jour qu'elle avait 16, elle s'énervait. Aujourd'hui, elle fait le commerce en ligne. Alléluia. Je l'ai croisé à Carrefour un jour. Elle m'a dit, ah, s'il te plaît, aide-moi à trouver. Pardon, je vais t'envoyer mon CD, mon CV. Comme tu es pasteur, tu peux connaître des gens. J'ai dit, ok, envoie. Mais elle était brillante. Qu'est-ce qui s'est passé sur le trajet? Vous voyez? Et ça ne veut pas aussi dire que mal fini, mal commencé veut dire bien fini, hein? Jamais. Il y a aussi des gens qui commencent mal, parce qu'il y a aussi la garantie que si tu commences mal, forcément tu vas mal finir. Tu ne peux pas engager une fausse relation et tu crois que ça va bien finir. Tu ne peux pas marcher avec les bandits, les voleurs, les agresseurs. Tu crois qu'à la fin, tu vas être président de la République. Amen. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui frappent leurs femmes et tu crois que demain, tu ne vas pas frapper la tienne. Chaque jour, ils vont te dire, gars, il faut la frapper. Il faut la frapper. Moi, je n'aime pas une femme qui me parle comme ça. T'as pas... L'autre jour, je suis arrivé, elle m'a manqué un peu de respect, mais à cause de toi, je me suis tué. Quand tu rentres, tu tapes pour ton ami. Alléluia. Tu as manqué de respect. Bam! Mais c'est pas à toi que j'ai manqué de respect. Ça fait quoi? C'est mon ami. C'est la dernière fois. Et tu pars, tu dis que, gars, j'ai validé. Tout va bien. Quand tu pars, elle va seulement dire, mon Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Une autre qualité. Est-ce qu'on peut avancer? Une autre qualité que nous devons développer en tant que leader. La diplomatie. Alléluia. Oui, c'est un mot un peu aïe, aïe, aïe. Mais ce soir, on va le rendre tout petit pour nous. Alléluia. Alors, la diplomatie, simplement, c'est la capacité de rencontrer des personnes, de rencontrer les personnes sensibles. Amen. De rencontrer les personnes sensibles. Alors, je vais même aller un peu plus loin. Vous voyez, il y a un merveilleux livre que je vous souhaite d'acheter, Le Leader Spirituel. Le Leader Spirituel. Je crois que j'ai ce livre-là dans ma bibliothèque. Et c'est écrit par un Américain, Oswald Sanders. Et il dit dans son livre-là, il associe la diplomatie au tact. Vous voyez le tact. T-A-C-T. Amen. Le tact. Avoir du tact. Avoir de la prévenance. Alléluia. Avoir de la prévenance. Avoir... comment je peux encore... Quel mot je peux encore... Alors, il combine ces deux mots-là ensemble. Alléluia. Et donc, vous dites que... Le leader qui a de la diplomatie est capable de réconcilier des personnes qui ne s'entendent pas parce qu'il a du tact. Alléluia. Et être diplomate, c'est savoir comment parler aux gens au moment où il faut lui parler. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas parler aux autres. Ils ne savent pas parler. Tout pour lui dire, ah non, c'est la vérité, je t'ai dit ma vérité, je t'ai dit la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est la méchanceté une fois de plus. Il faut avoir de la diplomatie dans la vie. Il y a des situations où, lorsque tu viens à côté de quelqu'un, tu dois prendre en compte son état psychologique. Amen. Tu dois prendre en compte son environnement socio-familial. Alléluia. Il sort de quelle famille, est-ce qu'il a même mangé? Tu viens, tu vois quelqu'un qui a faim, tu lui parles un genre mal. Il peut te tuer. Parce qu'il a faim. Alléluia. Dans la bagarre, il peut te mordre la jambe alors qu'il croyait que c'est un bout de pain. La famine fait des choses. Alléluia. La famine. Alors, si l'on combine ces deux mots, tact et diplomatie, si l'on combine ces deux mots, une idée émerge. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que ces deux mots vont symboliser simplement l'habileté à réconcilier des points de vue opposés. Amen. L'habileté à réconcilier des points de vue opposés. Il y a des gens dans la famille comme ça. Quand il y a un problème, on va toujours les voir. Alléluia. On dit, non, allons voir tel. Parce qu'elle est capable, cette personne, de s'asseoir et d'écouter les deux parties et de dire, bien que ce côté s'y attend, mais trouver le moyen que chacun sort de là avec une petite fierté personnelle. Alléluia. Pas le genre, bon, tu as tort. Hein? Et toi, tu as raison. Vraiment, toi, tu es méchant. Fais au camp. Et la maison prend feu. Alors, si tu es un parent qui manque de tact ou de diplomatie, ta maison va prendre feu. Regardez la maison de Rebecca et d'Isaac, de Jacob. Amen. Rebecca. Non. Rebecca et Isaac. Alléluia. Rebecca a eu deux jumeaux, les jumeaux, n'est-ce pas? Ils s'appelaient Jacob et Esaü. Amen. Mais regardez comment ils ont mené l'encadrement des enfants. Bien que la maman connaissait la prophétie de Dieu sur la vie de l'enfant, elle a manqué de diplomatie pour réconcilier les deux enfants. Et elle est morte prématurément parce que ces deux enfants se déchiraient. Amen. Alors si tu es une parente, une maman, chaque jour tu montres ta préférence à tel enfant et à l'autre tu lui dis, bon, ça va, tu vas accompagner ton frère. Alléluia. Dieu t'a envoyé pour accompagner celui-ci. Dieu t'a envoyé pour faire son travail. Tu es son boy. Le respect va rester jusqu'à ce que tu meurs. Après ta mort, la maison là va prendre feu. Alléluia. La maison là va prendre feu. Et c'est de ça que je parle de diplomatie. Aujourd'hui, plein de leaders manquent de diplomatie pour encadrer les gens. Encadrer les gens qui viennent autour d'eux. Hein? Quand quelqu'un part de l'église, tu dis vraiment, vous voyez, c'est un rebelle. Non, tu as raté le moyen de le réconcilier. Et c'est même ça que Jésus nous appelle à faire, le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, tu ne peux pas opérer dans le ministère de la réconciliation si tu n'as pas du tact. Si tu manques de diplomatie dans ton langage. Alléluia. Manque de diplomatie dans ton langage. Et la diplomatie appelle à beaucoup de sensibilité, à se mettre à la place de l'autre. Tu viens, tu réclames quelque chose. T'es-tu un jour mis à la place de celui que tu es en train de réclamer des choses? Ah! Alléluia! Non! Et c'est ça la diplomatie. Vous allez voir l'apôtre Paul durant son incarcération à Rome. Paul est devenu le mentor spirituel et ami intime d'un esclave qu'on appelait Onésime. Vous vous rappelez? On appelait Onésime. Il est devenu son mentor et son ami personnel et qui était l'esclave dans le livre de Philémon. Alléluia. Alors quand il écrit à Philémon, leader de l'église de Colosse, parce qu'il était le chef de l'église de Colosse, pour lui demander d'accueillir Onésime à titre de frère en Christ. Paul a fait preuve de tact et de diplomatie. Vous voyez? Il dit, c'est pourquoi, bien que je n'ai en Christ toute, que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférer au nom de l'amour que je t'adresse une prière pour mon enfant, mon frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi en plus forte raison, raison dans la chair, soit dans le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, Paul avait l'autorité d'obliger Philémon à faire ce qu'il veut. Mais avec diplomatie, il a reconnu sa position et il lui a demandé ça comme un service. Alors que Onésime avait fui de la maison de son patron parce qu'il estimait que son patron le traitait mal. Et il a donné sa vie à Jésus auprès de Paul. Or, son patron avait aussi donné sa vie à Jésus.
Alors, si ton patron et toi, vous faites membre, vous êtes membre de la même église, vous vous gérez comment? L'apôtre Paul dit à Onésime, rentre te soumettre auprès de ton patron comme servant Jésus. Amen. Et il dit au patron, prends soin de ton esclave comme Christ a pris soin de toi. Forcément, ça va changer les données. Alléluia. Parce que tous les deux, vous rendrez compte à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Voyez? Et donc, Paul a souvent donné des instructions claires aux disciples de Jésus. Dans ce cas-ci, par contre, il a fait appel à la compassion de Philémon sur la base de l'égalité, de l'amitié, de l'amour. Il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Sans ton avis. Alors que j'avais voulu, je pouvais le faire. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles je peux faire sans l'avis de plusieurs personnes dans cette église, mais je consulte ces personnes. Je consulte. Viens, tu penses qu'on peut faire, conseille-moi un peu, il y a telle situation, on peut faire ça comment? La plupart du temps, je sais ce que je dois faire. Mais, pour pouvoir, par diplomatie, et permettre à cette personne de se sentir à l'aise dans le projet, je lui donne la paternité du projet. C'est ça aussi avoir du tact. C'est ça aussi avoir du tact. N'est pas toujours celui qui va prendre le devant. Non, je suis le plus sage. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus sage. S'il y a quelqu'un de sage ici. Amen. Et même dans le foyer, vous allez voir ça. Un homme qui manque de diplomatie n'écoutera jamais sa femme. Une femme qui manque de diplomatie n'écoutera jamais son mari. Il y aura la guerre dans la maison. Irak, Iran. Alléluia. Et ça va faire le feu dans la maison. Alléluia. Proverbe chapitre 7, Proverbe chapitre 15, le verset 1, le verset 4. Proverbe 15, 1 et 4. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole dure excite quoi? La colère. Le verset 4 dit, la langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Brise l'âme. Bien-aimé, toi-même, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, à ton semblant, tourne cette fois ta langue, réfléchis. Si ça retourne sur moi demain, fais comment? Vous savez, il y a des gens qui sont très, très impatients pour indexer les autres d'un mal dans leur vie. Alléluia, j'ai reçu un de mes fils l'autre jour à la maison, il me racontait comment sa femme sent des présents dans sa maison. Amen. Sa femme, son fils, ils disent qu'ils sentent des présents. Sa femme dit que quand elle se couche pour se reposer, elle sent la présence. Son fils, quand il n'a pas dormi, quand on veut éteindre dans sa chambre, il dit non papa, il y a quelqu'un là. Et je dis mais levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la... Il dit oui, oui, on a consulté un pasteur de l'autre côté. Il dit c'est bien, il faut aller à l'église. Ça, vous ne partez même jamais à l'église. Alléluia. Oh oui, la présence de Dieu est importante. Amen. Tu viens, tu portes l'odeur de Dieu, tu pars dans ta maison. Qui sent l'odeur du diable, ça chasse l'odeur du diable. Alléluia. Et donc, regardez. Et je lui ai dit, écoute, il faut prier. Il faut prier. Et dans la discussion... Il a commencé à me dire, tu sais, moi je pense que depuis que tel parent est passé chez moi, j'ai dit, calme-toi. Depuis que tel parent, vraiment, il ne sait même pas ce qu'il est venu, il a apporté chez moi, vraiment, j'ai dit, calme-toi. Il ne faut pas être pressé de dire X, parce que si ça verse dehors, tu vas ramasser, va être compliqué. Ramasser va être compliqué, c'est une histoire de famille. Et directement, regardez ce qu'il va faire. C'est lui qui a ouvert la bouche, non? Il dit, tel, mon parent était là récemment, il a dormi chez moi, je ne sais pas pourquoi il était même là. Et j'ai dit, quand je reproche, il dit, vraiment, c'est ce que j'ai dit même à ma femme.
Quand c'est pire, c'est pour sa femme. Alléluia. J'ai dit que oui. Il dit oui, j'ai même dit ça à ma femme. Mais est-ce que quand il a dit le départ, est-ce qu'il a dit que c'est sa femme qui a dit? Il a dit que c'est lui, non? Il a dit, je ne sais pas pourquoi mon parent est venu, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit, ma femme a dit ça. Alors quand je reproche, il dit non, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Vraiment, je lui ai même dit que même son parent à elle était là récemment. Donc on peut aussi soupçonner son parent. J'ai dit, calmez-vous. Si vous n'avez pas de preuves tangibles, n'ouvrez pas la bouche. Restez dans la prière. Quoi que ce soit, c'est une alerte que vous vous levez dans la prière dans votre maison. Et vous ne sentez que seulement la présence. Vous n'êtes pas encore paralysé. Personne n'est encore mort dans la maison. Du coup, vous indexez tel. Lui-même, sa vie est facile. Alléluia. Proverbe 18, le verset 13. Proverbe 18, 13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Ah ah, la Bible dit que quand tu réponds sans avoir écouté, tu es un fou. Dis à ton voisin, toi qui réponds sans écouter, tu es fou. Tu es fou. C'est la parole de Dieu qui dit. Alléluia. Proverbe 25, 15. Par la lenteur de la colère, on fléchit un prince. Oh, j'aime ça. Il dit, et une langue douce peut briser les os. Une langue douce peut briser les os. Par la lenteur de la colère. Quand tu es lent à la colère, même un homme de quel niveau, il va tomber. Il va dire, maman, la manière que tu parles là, ça me touche, vraiment. Alléluia. Mais quand tu es le genre, mon frère, il cherche l'abri quelque part. Il cherche l'abri. Une autre qualité d'un leader, l'amitié. 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 Vous voyez? J'ai vu des leaders qui n'ont aucun ami. Bien-aimé, l'amitié c'est quoi? C'est un attachement entre deux personnes qui ne se fonde pas en général sur un lien de parenté. Amen. Qui ne se fonde pas généralement sur un lien de parenté. Qui est ton ami? Tu vas dire non, ah ok, dans la vie, quand j'étais encore dans le monde, j'avais beaucoup d'amis. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus moi d'amis dans le monde. Bon, maintenant dans la foi, qui est ton ami? Alléluia. Qui est ton ami? Alléluia. Non, Dieu est mon ami. Non, c'est trop facile. Qui est ton ami? Dis à ton voisin, qui est ton ami? Après l'église, tu pars la visiter, vous vous visitez, vous vous connaissez au-delà de l'église, vous vous fréquentez, vous... Amen. Vous vous tamponnez seulement à l'église, bam, 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 bam. Mais c'est normal que vous ayez beaucoup de clash à la fin. Alléluia. Vous ne vous fréquentez pas en dehors de l'église. Les seules sorties que vous avez à l'église, c'est les veillées mortuaires. Alléluia. Quand on parle à veiller, tel tu es là. Mais après là, visitez-vous, donnez-vous des rendez-vous. Va chez tel et tel vient aussi chez toi. Amen. C'est comme ça que l'amitié se développe. Écoutez, David et Jonathan sont devenus amis parce qu'ils vivaient dans la même maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils vivaient ensemble dans la même maison. Rappelez-vous que David a été recruté comme joueur de chantre dans la de harpe, dans la maison royale. Donc Jonathan était là. Alléluia. Jonathan était là. Et c'était donc tout à fait normal que dans leur amitié, ils se partagent les projets l'un de l'autre et que Jonathan finit par dire que, mon frère, quand tu parles un peu de tout ce que Dieu te montre là, tu es le prochain roi, ce n'est pas pour moi. Amen. C'était donc tout à fait normal que Jonathan protège son ami. As-tu un ami? As-tu un ami? Un ami, c'est une personne loyale qui ne nous laissera pas tomber et dont nous ne craindrons pas l'abandon. Alléluia. Nous ne craindrons pas l'abandon. Alors, si vous êtes un leader, vous avez peut-être déjà entendu Dieu diriger, c'est être seul. Amen. Encadrer, c'est être seul. Non, mais c'est faux. C'est vrai dans un sens. Alléluia. Mais dans un autre sens, nous sommes des êtres humains. On a besoin des autres. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui parle ton langage. Sinon, ta foi elle-même va s'éteindre. Ça va prendre un coup. Alléluia. Donc, tu as besoin de développer des relations avec les autres. Et par conséquent, tu as besoin de marcher avec les autres. Vous voyez? Si on est seul dans le ministère, si on est seul dans le leadership serait la chose la moins heureuse, n'est-ce pas? Ce serait l'endroit... Non, je n'en veux pas, pardon. Parce que à la fin, tu es seul. Tu es seul. Alors, chacun de nous avons besoin d'amis. Dis avec moi, j'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'amis. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux être mon ami? Je vois là les cornes qui sortaient des têtes. Alléluia. Est-ce que tu veux être mon ami? Amen. À la fin de ce service, ferai-toi des amis ici. Et avant la fin de la semaine, je veux que tu aies visité l'ami là. Parce que mercredi prochain, tu dois me rendre compte de cette amitié. Alléluia. 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 On a besoin d'amis. Comme nous l'avons dit un peu plus haut, le fait aiguise le fait. Amen. L'amitié aussi nous aiguise. L'amitié nous aiguise. L'amitié nous aiguise. Alléluia. L'amitié nous aiguise. Alléluia. 1 Chronique chapitre 27, le verset 32 à 34. 1 Chronique 27, verset 32 à 34. Vous allez regarder quelque chose. La Bible parle ici de Jonathan, oncle de David, qui était conseiller de David et homme de sens et de savoir. La Bible parle des gens qui étaient autour de David. On dit qu'il y avait un certain Jonathan. On dit qu'il y avait un certain Jéel, scribe, fils de Harmonie, était auprès des fils du roi. Il y avait également Achitophel, qui était conseiller du roi. Et la Bible dit à côté d'eux, il y avait un autre qu'on appelait Ushaï, l'Arkien. Et Ushaï était ami du roi. Ushaï était ami du roi. Alléluia. Au point où le jour où Absalom va prendre le pouvoir, et David va fuir pour éviter la confrontation avec son fils, il va aller en exil. Et sur le départ de l'exil, la Bible dit que Ushaï va venir le retrouver en route pour partir avec lui. Il va dire, mon ami, ne me suis pas. Parce qu'il y a un autre là, Achitophel. Rentre auprès de mon fils. Il sait que tu es mon ami. Il sait que les personnes qui peuvent me détruire, ce sont mes amis. Achitophel était proche de moi, toi aussi tu l'es. Donc va te tenir à côté de mon fils Absalom, de manière à ce que lorsque Achitophel va donner un bon conseil, toi tu vas détruire le conseil en ma faveur. Vous voyez? La Bible dit qu'un ami est un frère qu'on gagne. Alléluia. Il y a des amitiés qui sont devenues la famille, hein. Je vous ai déjà donné l'exemple dans ma propre famille. Ma mère et son amie sont devenues des belles sœurs aujourd'hui. Alléluia. Oui. C'est pourquoi Dieu nous envoie des personnes dans nos vies. Parfois, on a tellement fait les accidents de parcours Alléluia. Quand les personnes même arrivent, on dit, moi, je n'aime pas moi être à côté des gens. Moi, vraiment, Bien-aimé, personne n'est meilleur. On a besoin les uns des autres pour se perfectionner. Vous voyez, dans ce texte, des personnes côtoyaient le roi, des conseillers, un scribe, un chef de guerre. Le roi était entouré de personnes compétentes, mais de façon surprenante, dans ce même texte, il est fait mention de Hushaï, l'ami du roi. L'ami du roi. David avait des amis. Après le départ de Jonathan, David a eu d'autres amis. Hushaï, la Bible nous dit Hushaï. Alléluia. Alors dans la vie, dans la marche, dans ta marche, tu as besoin d'amis. Tu as besoin d'amis avec qui tu sois free pour dire ce qui est sur ton cœur. En dehors de Jésus. Alléluia. Alors quand un homme dit qu'il n'a que Jésus pour ami, il n'est pas bien. C'est un danger public. Oui, parce qu'il faut seulement que tu meurs, tu partes au ciel. Tant que tu es sur la terre, tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as besoin de l'épaule de quelqu'un. Et Dieu a présenté ça ainsi. Ah non, papa, vraiment, avec toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie, vraiment, moi, je ne peux moins plus. Qui va se confier lui-même à toi? Toi-même, tu es bien. Amen. Vous croyez que Jésus ne savait pas que Judas devait le trahir, mais il a gardé proche de lui. Il a gardé proche de lui. Un homme qui n'a pas d'amis est un homme pauvre. Tu n'as pas dit amen. La plus grande richesse d'un homme, c'est les hommes que Dieu, les hommes de qualité que Dieu lui donne. Amen. Il y a des amis que Dieu t'a donnés, mais parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, tu as coupé les liens avec eux. Ah, Satan, arrière de moi. Alléluia. Alors qu'il avait... sa relation dépassait toutes les autres. Il était prêt à accepter ta foi. Alléluia. Et c'était quelqu'un sur qui tu savais compter. Tu pouvais te réveiller comme ça, dire que garde-moi d'abord 200 000 là, et vais voir après. Il donne d'abord. C'est mon ami. Prends. Puis tu arrives quelque part, on te dit vraiment beaucoup de choses. Et puis tu coupes les liens. Alléluia. Et c'est dangereux. Et Dieu lui-même dit, c'est David qui dit ça, il dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu lui-même a besoin d'amis. Dans Jean chapitre 15, à partir de, il dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes amis. Ça veut dire qu'au départ, on était ses amis. Il dit, maintenant, vous êtes mes frères. Alléluia. Il dit, un ami sait ce qui est dans le cœur de son ami. Jésus veut faire de toi son ami. Et parfois, en faisant de toi son ami, il utilise quelqu'un que tu vois pour être ton ami. Alléluia. 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 Vous voyez? Hushaï. Hushaï. Proverbe chapitre 12, le verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Amen. Le juste montre à son ami la bonne voie. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur. Il se montre un frère. Alléluia. Il se montre un frère. Proverbe 18, le verset 24. Mais tel est un ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 27, le verset 9. Les conseils affectueux d'amis sont doux. Alléluia. Sont doux. Alors, aie des amis. Aie des amis. Aie un ami. Aie. Développe une amitié vraie et sincère. L'amitié vraie, même dans la foi, ne commence pas bien. Parfois, ça commence avec beaucoup d'accidents. Alléluia. Alléluia. Mais parce que chacun de vous, vous venez avec vos piquants. Alléluia, tu piques, je pique, tu piques, je pique. À un moment, on prend l'engagement chacun d'enlever son piquant et de mettre à côté. Alléluia, pour pouvoir s'apprécier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Je peux avancer alors? Vous voyez? L'amitié, c'est très important. L'amitié. L'amitié. Une bonne amitié influence dans le positif. Une mauvaise amitié influence dans le négatif. Il y a des personnes, quand ils sont à côté de toi, tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux même pas insulter. Mais il y en a, alors quand ils te quittent, c'est là où ton mauvais comportement sort du sac. Alléluia. Parce que cette amitié t'influence. Alléluia. Un autre, bon, une autre qualité essentielle, l'inspiration. Alléluia. L'inspiration. Nous parlons ici de l'inspiration. Bien-aimé, toi qui nous suis, est-ce que tu es béni? Toi qui nous suis en ligne, est-ce que tu es béni? Ah, formidable, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Hein? Alléluia, l'inspiration. Nous parlons de l'inspiration. Un autre caractère essentiel d'un leader. Vous voyez que le leader, il doit faire asseoir beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia, il doit faire asseoir beaucoup de choses. Et tout cela a trait à notre caractère, l'inspiration. Vous voyez, le leader est quelqu'un qui comprend comment inspirer les autres pour le service et le sacrifice. Alléluia. Si tu étais un leader qui ne peut pas inspirer les autres. L'inspiration ici parle de motivation. Alléluia. De motivation. Vous voyez, les deux mots se ressemblent mais sont un tout petit peu différent. Je vais expliquer. La motivation, c'est quand on s'empare d'une idée. Alléluia. C'est quand on fait d'une idée sienne. Alléluia. Je suis motivé par ceci, par cela. Je m'approprie cette phrase, ça me motive pour avancer. Alléluia. Ça me motive pour avancer. Maintenant, l'inspiration, c'est quand une idée s'empare de vous. Vous devenez l'idée. Vous ne vous appuyez plus. L'idée est à l'extérieur. Ça, c'est la motivation. L'idée est à l'intérieur. C'est l'inspiration. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pour définir la motivation, vous devez comprendre que la motivation vient du mot motif. Donc, pour que tu sois motivé, il faut que tu aies un motif, une raison. Une raison. Quelle est la raison pour laquelle tu viens à l'église? Si tu n'as pas de motif, tu ne vas pas venir à l'église. Tu ne vas même pas venir à l'heure. Ah, tu vas venir à l'église. Parce que tu n'as aucun motif. Du coup, tu manques de motivation. On va tirer tes pas. Oh, avance vite, sinon on va te fouetter. Donc, tu vas venir là parce qu'on t'a menacé. Alléluia. On t'a menacé. Il te faut un motif. Un motif. Et l'inspiration à côté de cela, c'est un processus. C'est un processus. Un livre peut vous inspirer, un orateur, une musique, une discussion entre amis, une personne en particulier. L'inspiration vous touche à l'intérieur. Alléluia. Vous touche à l'intérieur. Elle crée un sentiment intérieur. Elle crée un état d'excitation, de productivité, de détermination, de passion. Vous voyez, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné. Il était inspiré. Il avait cette inspiration en lui. Alléluia. Amen. Alors, si vos actions inspirent les autres à rêver davantage et à en apprendre davantage, à faire plus et à devenir plus, vous êtes un leader. Amen. Vous êtes un leader. Si vos attitudes, vos comportements n'inspirent pas les autres, Votre histoire ne vaut rien. Alléluia. Alors arrêtez-vous parfois, comme Jésus l'a fait, et posez la question, qu'est-ce que vous pensez de moi vous-même? Dites-le franchement. Alléluia. Parce que c'est un autotest compliqué. Hein? On peut avoir l'impression que c'était ce qui devait sortir là, Jésus n'avait pas de contrôle. Hein? Amen. On a dit que tu étais un prophète des temps anciens, tu es Élie qui est revenu. Il dit, et vous-même qui marchez avec moi, vous mangez mon pain. Hein? Je paye votre dîme. Je paye vos offrandes. Vous dites que quoi? Une seule personne a donné la réponse correcte selon la relation et la communion qu'il avait avec lui. Bien-aimé, si tu t'arrêtes et que les gens disent, ou bien que derrière ton dos, les gens disent des choses malveillantes sur toi, sur une longue période, interroge-toi. Ça veut dire que tu ne motives pas dans le bon sens. Si 5 personnes se réunissent et disent la même chose sur toi dans une réunion et que personne n'ouvre la bouche, vous dit vous avez tort. Des personnes qui sont supposées être proches de toi et que personne ne dit vous avez tort et que tout le monde, ceux qui se taisent, ceux qui ont même plus à dire que ceux qui parlent. À ce moment, pose-toi les questions. 1 Corinthiens 11, le verset 1. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ dans la version Semeur. Il dit, suivez donc mon exemple comme moi de mon côté. Je suis celui que le Christ nous a laissé. Bien-aimé, est-ce qu'on peut regarder ta vie et voir un exemple de vie? Et copier. Quel aspect de ta vie on peut copier? Et dire, ça, j'ai appris de tel. Alléluia. Est-ce que tu inspires ceux avec qui tu marches? Est-ce que tu inspires ceux avec qui tu travailles? Notez qu'on peut inspirer quelqu'un à aller chercher les femmes. Hein? Aller boire les alcools, vous voyez un peu. Amen. On peut l'inspirer. Il ne faisait pas ça avant. Mais à force de fréquenter cette personne-là, il commence à aimer ces choses-là aussi. Alléluia. Alors, si toi tu te dis enfant de Dieu, ouvrier de Dieu, leader de Jésus, alléluia, en quoi tu inspires ton entourage même au quartier? Est-ce que les gens viennent toquer ta maison comme ça, qui vraiment, j'ai vu ta vie chrétienne, ça m'a marqué, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler toi et moi? J'ai envie de discuter avec, j'ai besoin de ton conseil. Je me souviens une année qu'on habitait dans notre ancien quartier. Maman allait se coiffer de temps en temps chez une coiffeuse. De temps en temps. Et un jour, cette coiffeuse-là devait se marier. Et quand maman est venue le jour-là, elle lui a dit, maman, pardon. J'ai vu la manière que tu as marché à côté de moi. Tu viens seulement te coiffer. Les 30-40 minutes avec toi, que je cause avec toi, ça m'a marqué. Est-ce que tu peux être ma marraine? Et maman a dit, écoute, je vais en parler avec mon mari et puis on va se voir. Je te donnerai ma réponse. Et elle est venue me voir, je lui ai expliqué ce que c'est que la marraine. Ah, maman a dit, bon, j'ai dit qu'il vienne d'abord te voir aussi. Amen. Donc on a eu un rendez-vous où le monsieur est venu avec la femme. Ils sont arrivés à la maison et puis on a pris du temps pour discuter. Et quand on est sorti, le monsieur a dit, est-ce que tu peux être mon parrain? Il a dit non, vous êtes venu pour la marraine. Il dit non, vous deux. Non, même celui qui dit parrain là, il m'a jamais dit ce que tu me dis. J'ai dit mais tu as quel parrain? Il dit oublie-le, tu es mon parrain. Amen. Et on a eu comme ça deux ou trois rencontres pour préparer leur mariage. Il dit mince. Je dis, hein, mon parrain là, on se voit seulement pour boire la bière. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, on est devenu plus que
Chaque fois qu'il y a une nouvelle dans la maison, le monsieur-là, il prend la peine de venir nous rendre visite avec. Et sa femme est constamment à la maison. Elle vient même ici à l'église. Elle vient ici constamment quand elle a la possibilité, elle vient à l'église. Alléluia. Et à chaque fois, elle dit tout non, votre manière de fonctionner m'inspire. Mais, alléluia. Mais qui est-ce que tu inspires? Si tous les jours tu passes en... Les gens ont la torticolis. Vraiment. Alléluia. Si chaque fois que tu passes, on a la torticolis. Non, la lordose. Parce que tout le temps, les gars vont caler comme ça à cause de toi. Non. Il faut dire, oh Dieu, délivre-moi. Alléluia. Il faut dire, oh Dieu, délivre-moi. De moi-même. Regardez Néhémie dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre 3. Nous voyons comment Néhémie inspire le peuple. Amen. Au point où il dit que le peuple est découragé lors de la construction parce que Sambala, Tobija sont venus les menacer. Et il va leur parler, il va leur dire à la fin que la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel. Et ils vont reprendre courage. Ils vont bâtir avec une main, ils vont combattre avec une main. Alléluia. Si toi tu étais appelé Néhémie et que tu étais en danger comme ça, les gens devaient être, tu dis pardon, que chacun rentre chez lui, ne veut pas avoir la responsabilité de la mort de quelqu'un sur ma tête. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes déjà fâchés. Vous voyez, un bon modèle est à suivre. Vous voyez, un bon modèle. L'inspiration ici parle d'un bon modèle. Comment tu es perçu dans ton quartier? Oui, tu vas me dire, ah, je sors la nuit, je rentre la nuit. Tu es une chauve-souris. Alléluia. Non, en réalité, il faut que les gens te voient, n'est-ce pas? Il faut que les gens te voient. Il faut que tu sois en contact avec les gens. Quel est le rapport que les gens te donnent sur ta vie au quartier? Quel est le rapport qu'ils donnent sur ta vie dans ton petit lieu de commerce, je ne sais pas où tu t'occupes? Alléluia! Quand chaque 16h, 17h, tu prends ta Bible, tu passes en disant On ne dit pas, hey, maman, pardon, attends-moi pas ensemble. Vraiment, alléluia. Si chaque jour tu passes, on dit témoin Jéhovah. Tu n'as pas été sérieux. Hein? Tu portes ta grosse Bible, tu passes. Tout le monde dit, Ah, voilà. Panthère passe, panthère passe. Parce qu'au quartier, on sait que tu es dans tous les congossas, tous les bavardages, tous les bagarres, tout. Ah, ah. Et à 16h, tu prends ta Bible, tu passes devant tous les gens là, sans honte. Non, moi, j'ai changé de quartier, frère. Amen. Attention. L'inspiration. L'inspiration. Que quelqu'un dit inspiration. Christ a été un modèle parfait pour nous tous. Et l'apôtre Paul dit qu'il suit son exemple. Et il demande à ceux qui sont derrière lui de le suivre parce que lui suit l'exemple de Christ. Si Paul peut se recommander, c'est parce qu'il avait le témoignage aussi de l'Esprit. Que non, tu es un bon leader. Tu es un bon exemple. Est-ce que tu as le témoignage de l'Esprit de toi-même? Toi-même, quand tu t'assois, tu dis que ta paix est mauvaise. Alléluia. Peux-tu exhorter les autres à suivre ton modèle de leadership? Peux-tu inviter les autres? Te considères-tu comme un exemple? S'ils ne te citent pas comme référence, c'est-à-dire qu'il y a des points à ajuster quelque part. Si, et tu dois le faire, non pas pour leur faire plaisir, mais pour atteindre avec eux la vision qui est en toi. Tu as une vision en toi. Et parfois, les hommes qui sont autour de vous sont les indicateurs que vous ne pouvez pas parvenir à manifester cette vision vous-même. Avec ce genre de comportement. Et toi, tu t'affaches d'eux. Hein? Vous parlez mal de moi.
Maman, je ne peux pas changer. C'est comme ça que je suis né. Vous devez m'accepter comme ça. Tu es mal élevé. Alléluia. Amen. Ces gens-là sont des indicateurs que pim, le feu rouge. Attention. Si tu continues comme ça, là, tu ne vas rien atteindre. Et tu vas quitter cette terre sans avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Mais tu prends la mouche et tu t'énerves. Personne ne m'aime. Tout le monde dit. Non. Tu veux atteindre ta vision ou tu ne veux pas atteindre? Ma question, tu veux manifester ta vision ou tu ne veux pas manifester? Alléluia. Vous voyez, Josué a été un homme de Dieu remarquable. Il a su s'inspirer de l'exemple de Moïse. Il a observé comment son père spirituel a marché. Lui aussi a marché de la même manière. Alléluia. Lui aussi a marché de la même manière. Rappelez-vous, Josué s'est inspiré de l'instruction que Moïse avait reçue du Seigneur de faire rentrer 12 hommes en espionnage dans la ville de Jéricho. Amen, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Quand le tour de Josué est arrivé, quand il fallait la scène est partie de ma tête. Il y a une scène qui va se passer où Josué lui-même va utiliser 12 hommes pour traverser l'eau. Alléluia. Donc, c'est le même principe. C'est pourquoi nous devons être inspirés ou se laisser être inspirés par d'autres. Alléluia. Amen. Et donc, la motivation donne l'impression que quelqu'un vous pousse. Un leader inspirant vous aide à révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. Mais quand on veut révéler ce qu'il y a de meilleur, pardon, laisse-moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Qui t'a dit que comme tu es né comme ça, c'est comme ça que Dieu te veut? Alléluia. Tu n'es pas né comme ça. Pas naître comme ça, tu es né nu. La culotte là, tu dois enlever. Alléluia. Qui est né avec la culotte? Comment d'abord pas enlever la culotte? Parce que c'est... Comment ensuite enlève les greffes là? Les cheveux que tu as mis sur les têtes teintées. Enlève, ça ne fait pas partie de comment tu es venu. Tu es né sans cheveux. Les cheveux sont venus après. Alléluia. Vous voyez les bébés qui naissent sans cheveux, non? Il y a juste trois comme ça. Pip, pip. On a pointé trois brindilles comme ça. Dieu lui-même, hein? Tu vois, il nous rigole bien là-bas aussi. Il dit, vraiment, regarde la coiffure de celle-ci. Tellement elle était pressée qu'elle n'a pas attendu, on pique le reste des cheveux. Alléluia. D'autres sortent, ils ont dans la calvitie, tout comme ça, bam. Tout le monde dit, ça c'est un père. Alléluia. L'inspiration. Un leader qui motive, pousse son équipe à en faire davantage. Un leader inspirant tire le meilleur de son équipe. Alléluia. Tire le meilleur de son équipe. Alors ce soir, quel type de leader tu es? Quel type de leader veux-tu être? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.